Tout le basket est sur RTL l'équipe. Carrément basket, Luigi Collant.
Bonjour à tous, bienvenue sur RTL l'équipe pour un nouveau numéro de Carrément Basket. Une heure d'émission que l'on passera en compagnie d'Alexis Ingensa, l'ancien pivot de Dallas et de Charlotte en fin de contrat avec Toronto. Nous parlera de son avenir en NBA et de son futur pas forcément bleu avec l'équipe de France. Au programme de ce Carrément Basket, de la NBA avec une performance signée d'un N majuscule la nuit dernière, le N de Dirk Nowitzki, inarrêtable face à Oklahoma et qui a mené les Mavericks à la victoire lors du premier match de la finale de Conférence Ouest. À l'Est, la parole est à la défense, celle de Chicago qui a étouffé Miami lors du premier match de la série. Une victoire des Bulls qui lance parfaitement une finale de conférence que l'on annonce explosive. Au menu également des nouvelles du lockout, de la loterie pour la draft qui a eu lieu la nuit dernière et puis du début évidemment des quarts de finale de Pro A, ça c'est en France. En puis dans ce Carrément Basket, hein, je le disais tout à l'heure, on vous donne peut-être un petit bonus, ça dépendra, on attend des nouvelles de Tony Parker qui nous accordera normalement, si tout se passe bien, une petite interview par téléphone, ce sera en fin d'émission. Prenez place, installez-vous confortablement, Carrément Basket c'est jusqu'à midi et demi sur RTL l'équipe.
Sur RTL l'équipe, Carrément Basket jusqu'à midi et demi.
Allez messieurs, je vous cacherai pas que notre invité il a un petit peu de retard, c'est pas grave, on va l'excuser, il devrait arriver d'ici 5 à 10 minutes, Alexis Ingensa, voilà, sûrement bloqué hein, dans les transports parisiens, on sait que c'est pas toujours facile. En attendant, je vais accueillir mes deux invités, d'exception évidemment, eux aussi, hein, n'hésitons pas, monsieur Armel Lebescon qui nous revient des États-Unis de Mondial Basket, si je dis pas de bêtises.
Bonjour,
bonjour
à tous.
Armel.
Heureux de vous retrouver.
Et Georges Eddy, fidèle au poste, comme d'habitude, consultant RTL, l'équipe. Bonjour Georges.
Bonjour.
Alors messieurs, on va attendre hein, Alexis ça tranquillement, mais on va évidemment lancer les débats. On va pas attendre hein, notre invité pour commencer à parler NBA. Et j'aimerais tout de suite hein, qu'on rentre dans le vif du sujet en parlant bien de cette performance exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot la nuit dernière. Et bien c'est celle de Dirk Nowitzki qui a fait un match mais de folie. On se penchera sur les stats ou peut-être Carmel a quelques stats justement et quelques références pour parler de ça. Mais sincèrement, quel match de fou il nous a sorti hier, Dirk Nowitzki. Armel.
Magnifique, sublime, 24 sur 24 sur la ligne des lancers francs. Bon, là aussi, on est dans des records. Effectivement, il a effacé des tablettes certains joueurs, dont Michael Jordan, sur un nombre de lancers shootés. En fait, le problème, effectivement, pour Oklahoma a été de défendre sur Nowitzki, sur l'Allemand. Comment s'y prendre et tout. Moi-même, je me posais la question pour avoir vu Oklahoma, là. Je me disais, cette équipe, avec Ibaka classique et tout, sur le poste de power, là, on est sur une position, mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Alors après, effectivement, il y a eu un relais parce qu'effectivement, les joueurs ont été très vite, les joueurs d'Oklahoma ont été très vite dans les fautes. Donc, on a vu tout un, même Kevin Durant s'est retrouvé à défendre sur lui, ce qui n'est pas peu dire. Il aura tout fait. C'est-à-dire qu'avec son petit step back, effectivement, il a pu tirer. Il est passé sur la ligne de fond avec la faute en plus. Franchement, là, il va falloir trouver une parade. Il va falloir prendre un peu plus de risques que ce qu'ils ont fait hier du côté du Thunder. Et effectivement, le classique, ce sera de faire double dip en permanence sur Nowitzki. Mais après, effectivement, ils vont se risquer sur du shoot à 3 points. Et quand on sait que l'équipe de Dallas, des Mavericks, est absolument performante depuis le début du playoff, hein, c'est pas uniquement sur une série, c'est depuis le début du playoff, ils sont très forts à 3 points. Donc, Oklahoma, effectivement, mais ils sont obligés d'aller dans le risque, à mon avis. En tous les cas, c'est mon avis pour bloquer un petit peu ce système.
Georges ?
Je traduis, double team, ce sont des prises à deux. Et c'est très difficile de faire des prises à deux sur un joueur extérieur. Sur un joueur intérieur, c'est plus facile. Ils ont essayé 5 défenseurs différents sur Nowitzki. Et pour le moment, ils n'ont pas trouvé la solution. Cette performance est absolument exceptionnelle. Il fait un record 24 sur 24 au lancer franc, c'est-à-dire un record en playoff pour le plus de lancers francs réussis sans échec. Il fait 13 sur 13 rien que dans le troisième carton au lancer franc. Et surtout, il ne fait que 15 tirs et il marque 48 points. 15 tirs pour 48 points, ça fait plus de 3 points partir tenter. C'est peut-être un record mondial d'efficacité et de rentabilité pour un shooter, mais on sait que Dirk Nowitzki, c'est tout simplement le meilleur shooter de 2m13 dans l'histoire du basket mondial. Oui. Et il confirme, parce que, bon, comme Tim Duncan, toujours très constant depuis des années, fidèle à son club, et je trouve que c'est une sorte de duel de gentlemen, cette finale de Conference West. Kevin Durant, c'est New Age, nouvelle vague, mais un gentleman que toutes les mères de famille aimeraient avoir comme fiston, face à Nowitzki, qui a toujours été calme, bon, c'est l'allemand, hein, teutonique, et vraiment exemplaire dans son comportement. Donc, on se réjouit de voir ces deux hommes au sommet, parce que Durant a quand même mis 40 points, ouais, aussi.
Et ça, faut pas l'oublier, les stats de Durant, 40 points, 8 rebonds, 5 passes. D'habitude, on aurait dit, bon, c'est exceptionnel ce qu'il nous a fait. Bon, il a perdu déjà, premier point négatif pour lui, mais surtout, à côté de ça, effectivement, il y a eu la performance de Nowitzki. On l'a dit, 48 points, 24 sur 24 au lancer franc, 6 rebonds, 4 passes, 4 contre. Donc, il y a aussi également d'autres secteurs où il s'est illustré, l'allemand. Et je veux revenir à ce que disait Georges Armel. Est-ce que on a déjà vu ça? En tout cas, un scoreur comme ça qui nous met 48 points avec seulement 15 shoots tentés.
Est-ce que probablement c'est du, pas. Est-ce que c'est
du moi, j'ai pas souvenir
probablement
de,
pas.
J'ai pas souvenir de ça, effectivement. Les joueurs, ils sont plutôt dans une, entre, on va dire, 22 et 25 shoots, généralement. Et ça veut dire qu'après, derrière, il faut aller sur la ligne des lancers. Pour faire effectivement un tel score. Donc 22, 25 shoots, c'est plus du tout la même chose. Là, il fait 12 sur 15. C'est remarquable.
Oui, donc et ça veut dire 39 tirs voilà, au total, 24 voilà. plus 15, avec 3 entre, ratés.
Voilà.
Donc 39 shoots et 3 ratés. On est dans le stratosphère, là.
12 sur 15, c'est absolument hallucinant, quoi. Tout lui réussissait.
Et sans shooter à 3 dit, points, voilà. Pas une seule fois.
Alors qu'il a, généralement, il en prend, ouais, 3 en moyenne par match à 3 points, mais il a même pas eu besoin de ça hier. Il s'est reposé après sur Jason Terry, sur Barea pour ce type de shoot. Stojakovic qui s'est un peu déchiré, lui, par contre. Mais il a les joueurs pour cela. Et en fait, son impact a été totalement différent. Mais on voit aussi, on a l'impression à lire ça, qu'il y a eu que Nowitzki, ce qui est faux. Puisqu'effectivement, on voit que le rebond a été dominé par Chandler. À la passe, on trouve Jason Kidd. Et à l'inverse, du côté d'Oklahoma, c'est là la difficulté. Et c'est là qu'il va falloir recadrer très vite cette équipe. Kevin Durant, meilleur scoreur. Meilleur rebondeur, c'est également Kevin Durant. Et meilleur passeur, également Kevin Durant.
Oui, donc ça veut dire que Russell Westbrook doit rejouer comme il a fait dans le match 7, où il a été exemplaire avec un triple-double et surtout 14 passes décisives, sans bouffer le ballon, sans prendre des risques insensés. Et là, malheureusement, il est en finale de conférence. Je sais pas ce qu'il s'est mis dans la tête, mais il a rejoué ce basket un peu trop foufou qu'il a souvent produit dans les playoffs cette saison. Il a besoin d'être recadré par le staff et de se calmer, de ne pas sauter en l'air sans avoir de solution. Ça, c'est le pire. Parce qu'il fait quand même 3 sur 15 au tir, 4 ballons perdus et seulement 3 passes décisives. Donc c'est exactement l'antithèse de son match 7 exemplaire au tour précédent.
Et il nous a fait aussi quelques shoots en airball assez magnifiques. Il y en a 2 ou 3 où il prend des shoots impossibles. On sait très bien que ça ne va pas rentrer. Bon, il les tente alors qu'il y a peut-être des solutions à côté. Et effectivement, Westbrook a peut-être tendance à revenir à...
Il est dans la surexcitation permanente. Il s'est calmé, je sais pas pourquoi, peut-être quelqu'un est allé le voir avant le match 7 ou Durant, peut-être, parce que c'est la clé de tout, il faut que Durant et Westbrook soient sur la même page.
C'est Ibaka et qui sur est allé le recadrer.
Ah bah c'est intéressant, tu étais là-bas?
Donc Ibaka en fait peut réussir effectivement à faire le noyau, Durant ne parle pas beaucoup et Ibaka parle beaucoup plus et effectivement il peut lui dire, et Perkins même chose et tout, de se calmer, de prendre les choses différemment. Mais dans le match d'hier, on a retrouvé le Westbrook du match 3 lorsqu'on est dans la série contre Memphis, où effectivement l'équipe d'Oklahoma a le match en moins. Et puis, dans le quatrième quart-temps, eh bien, Westbrook fait n'importe quoi.
Il bouffe la feuille.
Et voilà, il a 4 turnovers sur le quatrième quart-temps face à Memphis dans ce match 3. Et derrière, il perd en prolongation parce qu'effectivement, il a eu tendance à jouer pour lui et à faire son style playground, comme on l'a vu hier dans le deuxième quart-temps, qui est catastrophique de la part de Westbrook. Ils sont devant à ce moment-là dans ce match.
Ils ont bien démarré le match.
Ils ont fait un super premier quart-temps. Et derrière, Westbrook qui prend le match carrément à son compte. Dortmund qui ne donne plus ses ballons. Durant qui était plutôt bien, il ne marque qu'un seul point dans le deuxième quart-temps. Et à ce moment-là, il y a un retour de l'équipe de Dallas qui leur met un 16-1 absolument fantastique avec Nowitzki, avec Terry. Et voilà, c'est terminé. Après, je veux dire, ils reviennent parce qu'effectivement, Westbrook redonne son ballon à ce moment-là à Durant. Et Durant peut scorer. Mais vous imaginez, Durant, un seul point dans le deuxième quart-temps. Si, je veux dire, il score beaucoup plus dans ce deuxième quart-temps, peut-être qu'on a un Durant hier soir à plus de 50 points. Voilà, c'est ouais, voilà ouais, le ouais. problème.
Et
voilà
les raisons. Et le match d'Ibaka aussi, qui a fait un bon match à 17 points aussi.
Et voilà les raisons d'espérer pour l'équipe d'Oklahoma aussi. Parce qu'effectivement, si Westbrook lâche un peu plus son ballon, ou en tous les cas, on donne un peu plus de temps de jeu aussi à Maynor, qui hier se retrouve avec simplement 9 minutes de temps de jeu, peut-être que là aussi, on aura un rééquilibrage un peu plus intéressant pour l'équipe d'Oklahoma. Mais en tous les cas, ça passe par un recadrage total. Et en insistant sur Westbrook, il faut le canaliser. Il a ce style playground qui est particulièrement détestable. On sait que c'est un très bon joueur, mais il ne peut pas jouer comme le fait Derrick Rose. Et il a tendance à essayer de partir. Quand il va dans ses drives, il a tendance à jouer un petit peu comme Derrick Rose. Et la balle lui échappe à un moment donné parce qu'effectivement, il n'a pas le petit lob, il n'a pas le toucher de balle que peut avoir un Derrick Rose. Et on n'est pas MVP comme ça du jour au lendemain en NBA. Donc Westbrook qui se calme un petit peu. Et c'est dommage parce que je crois que ce match, ils y étaient à 4 minutes de la fin. Ils reviennent effectivement encore dans le match. Ils y sont à 4-5 points de l'équipe de Dallas qui fait pourtant un gros match dans ensemble. Mais ils sont là quand même.
Alors, vous venez de dire Dallas, et forcément, qui dit Dallas dit Alexis Agençal, il y est passé il y a
il
quelques temps.
Bien,
du
ouais.
côté de Dallas, il les connaît bien, il vient d'arriver dans nos studios, Alexis, avec un petit peu de retard. On va lui dire un grand bonjour déjà. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Bienvenue dans Carrément Basket. On parlait de Dallas tout de suite, on va vous mettre dans le bain. Vous y avez joué un petit peu de temps là-bas du côté du Texas. Vous avez regardé le match la nuit dernière?
Non, j'ai pas regardé, j'étais un peu fatigué à ouais. force de regarder tous les matchs, donc pour être honnête, j'ai fait l'impasse sur celui-là. Mais j'ai regardé le résumé et puis c'est vrai que Dallas a été énorme aussi, surtout Nowitzki, 24 sur 24 au lancer franc. Donc c'est sûr que c'est impressionnant. Et je pense qu'ils ont maîtrisé le match, même si on a vu que comme tu dis, dans les 4 dernières minutes, ils commencent à revenir. Je pense qu'ils ont su canaliser le match et puis maîtriser le match. Ouais.
Une superbe victoire de Dallas pour commencer cette série. On continue de parler avec Nowitzki puisque vous l'avez bien connu, hein. Vous avez c'était son partenaire d'entraînement. Vous avez dû défendre sur lui sûrement dans plusieurs séances. Ouais. C'est voilà, on le répète, mais c'est compliqué de devoir défendre sur un joueur comme ça. C'est limite impossible des fois par moment.
Ouais, c'est vrai. C'est vraiment dur parce que il a pas mal de feintes. Il va faire une feinte de shoot, mais en fait garder la balle en haut, donc c'est très dur. La plupart des joueurs vont juste sauter et puis faire pas mal de fautes sur lui, surtout taper les bras et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est un joueur très impressionnant et très dur à défendre.
Et il vous a donné quelques recettes miracles ou pas du tout, des petits conseils, ou il garde tout pour lui?
Non, oui, il m'a donné des recettes et puis voilà, je m'entraînais avec lui, je faisais les mêmes moves que lui, donc c'est vrai que je connais un peu ses moves. C'est pour ça que quand on a joué avec Toronto, il a essayé de faire le move qui m'a appris et puis je l'ai contré quoi. Donc je savais ce qu'il allait faire, mais c'est vrai que même si tu sais ce qu'il va faire, il te le mettra quand même dessus quoi.
Alexis a dit une phrase clé. Là, on va parler un tout petit peu technique. Ça peut être intéressant aussi, même pour un grand public, parce qu'il garde le ballon en haut. Donc, il fait 2-13. Il a un shoot déjà de tueur. Et il ne baisse pas son ballon quand il fait les feintes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un simple geste vers le haut, il peut shooter un peu dans toutes les positions, malgré un défenseur qui se colle à lui. Tandis que la plupart des joueurs, ils ont besoin de baisser le ballon et remonter pour avoir de l'élan. Donc lui, il a travaillé ses techniques avec son mentor en Allemagne pendant, je ne sais pas, 10 à 15 ans. Et c'est là où il est également atypique et tout à fait unique dans son genre.
Ouais, l'Allemand, on le disait, on le répète, hein, 48 points la nuit dernière, 24 sur 24 au lycée franc. Une performance exceptionnelle. Alexis Agençal est donc notre invité jusqu'à midi et demi sur RTL Équipe Carrément Basket. On va évidemment lui poser plein de questions. On va profiter de sa présence hein, pour parler de plein de choses, de son avenir en NBA, je le disais tout à l'heure. Un petit peu de l'équipe de France, forcément une équipe de France. Ou peut-être tout à l'heure, on le disait aussi, Tony Parker nous fera le plaisir d'être là par téléphone quelques minutes. On espère le joindre évidemment dans ce Carrément Basket. On reste sur Dallas pour parler d'un autre Français, Rodrigue Beaubois, qui devait peut-être faire son retour dans la série. Ça tourne quand même bien sans lui. Est-ce qu'on a une chance de voir Rodrigue revenir? Alexis, je sais pas si vous avez des nouvelles un petit peu de Rodrigue.
Oui, j'ai des nouvelles. Je sais qu'il s'est fait encore un peu mal au niveau du pied. Et puis connaissant Carlisle, je pense qu'il va rester avec l'équipe qu'il a. Pour le moment, ça marche, il gagne. Donc, du moment qu'il gagne, je pense pas qu'il va essayer de changer la chimie. Donc, comme je dis, je pense qu'ils vont rester comme ça. Ils vont rester avec Stevenson en starter. Je pense qu'il a starté encore hier.
Oui. Ouais.
Donc, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils haussent le ton en défense parce qu'ils défendent assez bien. C'est ce qu'il a fait contre Kobe. Donc, je pense qu'ils vont continuer comme ça durant toute la série jusqu'à qu'ils perdent. Et puis peut-être que quand ils vont perdre, ils vont se remettre un peu en question, peut-être mettre Rodrigue. Dick.
Armel, partagez ça.
Oui, il va pas changer une équipe qui tourne en play-off. Je vous rappelle quand même que Dallas est une équipe qui est à 6-0 rien que chez eux, déjà à Dallas. Alors que c'est l'équipe qui est arrivée dans le top 8 à l'Ouest avec quasiment le plus de défaites. Seul New Orleans était à 13 défaites. Et l'équipe de Dallas était à 12 défaites à domicile. Donc vous pouvez se dire, effectivement, c'est cette équipe-là qui pourra se faire toper chez elle, connaissant un peu de la mentalité des Mavericks et tout. Et en l'occurrence, c'est pas du tout ça. Mais de toute façon, l'ensemble du play-off est totalement contraire aux prédictions qu'on a pu faire, au stade qu'on a pu alimenter tout au long de la saison régulière. Donc ça en fait partie. Pour Rodrigue Beaubois, il faut revenir sur une petite chose qui est différente. C'est d'ailleurs qu'il est arrivé très tard dans cette équipe suite à sa blessure. Lorsqu'il est revenu, moi je l'ai vu jouer à ce moment-là avec les Mavericks, il a fait des bons débuts de match à chaque fois. Beaucoup d'impulsion, beaucoup d'énergie, comme il savait faire déjà lors de sa saison de rookie. Ensuite, on lui a demandé d'un petit peu plus. La blessure est arrivée, mais on était déjà dans le dernier mois de saison régulière. Donc forcément, lorsqu'on en arrive ensuite sur du play-off, c'est encore d'autant plus difficile de s'intégrer à l'équipe, même s'il la connaît, cette équipe. Donc, aujourd'hui, que l'équipe de Dallas gagne ses matchs, gagne et plutôt, effectivement, sur une excellente dynamique, ce sera très difficile, effectivement, de changer un petit peu la conjoncture du côté de Carlisle. En tous les cas, il a Stevenson pour stopper sur les débuts de match. Ensuite, il incorpore un garçon, par exemple, comme Jason Terry, qui fait un play-off fabuleux, un ensemble de play-offs, mais extraordinaire. Ensuite, quand on voit Barea depuis le deuxième tour, ce qu'il fait, hier soir, je vous rappelle, Barea, c'est quand même uniquement 16 minutes de temps de jeu, 21 points. Ça aussi, faudrait regarder dans le timing, si on n'est pas sur des records en si peu de temps de jeu. 21 points, c'est quand même assez, avec du shoot en plus, il va pas très souvent sur la ligne des lancers francs, donc prise de risque, c'est un arrière et il entourloupe tout le monde à sa façon, donc ça va être très difficile pour Rodrigue de revenir dans cette équipe. Il faudrait une défaite, il faudrait que quelque chose parte en sucette dans l'équipe pour qu'on le réintègre.
Oui, en fait, c'est Barea qui barre Beaubois.
C'est ce que j'allais dire.
Et il y a deux facteurs. Dallas joue en ce moment le meilleur basket de sa saison. Et c'est souvent les futurs champions qui font ça. Ils arrivent au sommet de leur forme pour les playoffs comme les Lakers ces dernières années ou les Spurs ces 10 dernières années. Et la deuxième chose importante, c'est que Dallas est la dernière équipe des 4 en lice qui joue vraiment la carte de l'expérience. Donc, si on va jouer l'expérience à fond, même Barea est expérimenté, Stojakovic, Terry qui arrive du banc et le 38 ans de Nowitzki, 33 ans dans le 5. Bon, ils vont jouer cette carte-là jusqu'au bout. C'est un peu leur fenêtre d'opportunité, peut-être la dernière qui se présente. Et je pense qu'ils vont vraiment le saisir totalement. Donc, c'est pas le moment de lancer un jeune qui revient de blessure.
Et surtout que Barea, ouais, c'est un petit peu dans le registre, en tout cas dans lequel jouait Rodrigue ou ce qu'on lui demandait l'année dernière, notamment la série face aux Spurs. On lui demandait justement de la vitesse pour contrer un petit peu les Tony Parker. Et c'est vrai que Barea, il fait très bien en ce moment porter cette vivacité dans le jeu, en tout cas de Dallas.
Ouais, mais l'an passé, en fait, on faisait appel, les fans avaient fait appel à Rodrigue Beaubois en disant que Carlisle s'est trompé, effectivement, parce que notre rookie, le français en l'occurrence, aurait pu apporter autre chose. Forcément, puisque l'équipe, elle était en difficulté, on se rappelle qu'elle avait été éliminée par les Spurs. Donc, l'équipe étant en difficulté, effectivement, on avait trouvé qu'il fallait bien trouver quelque chose à répondre à Carlisle, qui n'avait pas relancé Rodrigue Beaubois comme il le devait. Cette année, ce n'est pas le cas. L'équipe est tourne là actuellement, donc effectivement, il va pas aller changer quoi que ce soit. Et Barea, effectivement, c'est un joueur assez... C'est pareil, Alex va pouvoir nous en parler. C'est un joueur assez extraordinaire. Moi, je l'ai découvert, Barea, dans un face-à-face avec Tony Parker. Et Tony Parker ne le connaissait sûrement pas non plus. On le fait jouer, Avery Johnson le balance dans le match et tout. Et il y avait eu prolongation d'ailleurs sur ce match. Et Dallas avait gagné le match. Et Tony avait eu les pires difficultés parce que c'est la première fois qu'il jouait ce type de joueur, ce type de profil. Petit joueur, on rappelle.
1m78.
Très, très petit, voilà.
Petit et puis,
mais ça va vite dans les moves. Il fait des choses.
C'est
assez
le roi du pick and roll.
Ouais, voilà. Donc ouais, c'est assez bizarre. C'est, et d'un seul coup, ça avait complètement changé le fil du match. On avait été en overtime. Ils avaient gagné Dallas sur ce match et tout. Enfin, Alex peut peut-être nous parler un petit peu techniquement de ce joueur.
Est-ce que Carl est justement le genre de coach qui préfère les joueurs qui ont pas mal d'expérience NBA, par exemple?
Oui, je dirais que oui, mais c'est vrai qu'il a donné pas mal de chance aussi à Rodri. Et je pense aussi qu'il va sûrement lui donner encore une chance durant les playoffs s'ils perdent. Ça, c'est vrai. Et puis, le fait qu'il mène de plus en plus Barea, c'est qu'en fait, il joue beaucoup plus pour l'équipe. Il a changé son jeu comparé à ce qu'il avait fait durant toute la saison. Il jouait un peu pour lui-même et driver quand il était un peu ouvert, mais essayer de provoquer des fautes. Et puis là, en ce moment, il fait jouer l'équipe. Et puis quand il est ouvert, c'est sûr qu'il y va. C'est son jeu. Il est assez rapide, donc c'est très dur pour un grand, même s'il vient à côté de toi pour le contrer. C'est pour ça qu'il met pas mal de lay-up.
Et autre joueur en tout cas que vous avez connu forcément à Dallas, c'est un autre Français, c'est Yann Mahami. Il a pas beaucoup joué en tout cas. Je sais pas si vous avez des nouvelles de lui, si vous continuez à garder contact en tout cas. C'est pas trop compliqué pour lui d'être assis sur le banc comme ça. Je pense que ça fait plaisir d'être en playoff évidemment, mais de regarder ses partenaires jouer et rester sur le banc comme ça.
Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. J'ai pas eu encore de nouvelles de lui, mais je sais que c'est compliqué pour lui. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il pourrait rentrer maintenant et puis apporter de l'énergie et des rebonds, et surtout la vivacité qu'il a sur le terrain. Donc ça pourrait les aider aussi, surtout dans le secteur intérieur.
Ça dépend un peu des fautes de Chandler. Le match où Chandler va prendre deux fautes en premier quart tantôt, on verra un peu Miami, parce que Haywood est pas mal, mais il n'apporte pas les mêmes choses qu'il y a de Miami.
Ouais, donc on espère en tout cas voir fouler les parquets de Dallas, même Rodrigue Bobois, ça va être compliqué, on le disait, avec cette équipe de Dallas franchement impressionnante en tous les cas. Le sweep hein, avant lors du tour précédent face aux Lakers, on le rappelle, et puis là ce début tonitruant face à Oklahoma. Voilà, on ne sait pas si Oklahoma va trouver des solutions, mais ils ont intérêt à en trouver très vite, parce que sinon ça peut vite tourner au sweep là aussi si ça continue.
Mais ils ont des ressources aussi, hein. Ils ont montré ça en étant très très faibles, notamment Durant dans le match 6 contre Memphis, avant de dominer le match 7 avec Durant à 39 points dans une sorte de match de référence par rapport à sa carrière de superstar en pleine éclosion.
Ouais, mais ce que disait Armel tout à l'heure, est-ce qu'il n'a pas manqué à Memphis aussi justement ses shooters à 3 points, chose
qu'à Dallas
aussi.
Complètement. La priorité pour Memphis, effectivement, c'est d'avoir, on va dire, ne soyons pas exigeants non plus, mais un bon shooter à 3 points dans cette équipe. Ils ont une force intérieure absolument extraordinaire, destructrice, mais ils n'ont pas le shooter à 3 points. C'est-à-dire quand ils maîtrisent le rebond, les ballons sortent effectivement. Les shooters à 3 points, on s'est retrouvé avec Mayo, meilleur shooter à 3 points quasiment dans cette équipe, alors que Mayo devait être dans une ligne de trade au mois de février, faut-il le rappeler. Et derrière, on retrouve Shane Battier qui est à 27% à 3 points et on a Tony Allen qui est à 14%. Ce sont en plus deux profils de joueurs exactement les mêmes dans cette équipe de Memphis. Ce sont d'abord deux top défenseurs qui ensuite ne vont pas refuser le shoot à 3 points, mais ce ne sont pas non plus, on ne peut pas compter, ce ne sont pas des vrais, ce ne sont pas des Bruce Bowen par exemple que vous aviez à San Antonio, qui lui effectivement était un vrai stop défensif, mais qui ensuite avait un système pour lui sur le shoot à 3 points. Là par exemple dans le game 7 entre Oklahoma et Memphis, on a vu qu'il y avait 3 tirs ouverts pour Shane Battier. À un moment donné, où ça se jouait à 4-5 points et tout, il prend ses tirs, effectivement, et il ne les rentre pas. Effectivement, chance, pas chance et tout. On l'a vu contre San Antonio, il avait eu un peu plus de réussite, il avait rentré le shoot qu'il fallait. Je ne dis pas que Shane Battier ne n'a jamais, il rentre des shoots à 3 points, mais son pourcentage, vous voyez, il est à 27%.
Oui, c'est une tendance.
Voilà. Ils ont besoin de ce shooter pour faire cette équipe des Grizzlies, qui sera une excellente équipe l'année prochaine.
Well, Rudy Gay sera de retour déjà, c'est un bon shooter.
Oui, il est à 39%.
C'est une tendance.
Il y a des rumeurs de trade sur lui aussi.
Oui. Oui. Mais en plus, avec le lockout, tout va être tellement compliqué dans l'avenir proche. Mais bon, c'est une tendance, cette histoire des shoots à 3 points, parce que ça a tué Orlando et San Antonio, deux équipes qui se reposaient énormément sur les shoots à 3 points pour gagner cette saison. Ils ont failli en play-off dans ce domaine et ça les a éliminés. Là, c'est encore le cas pour Memphis et je pense qu'on peut trouver d'autres cas dans les play-offs cette saison. Bon, ça fait partie des tendances avec le rajeunissement et le, on va dire les très grandes équipes de ces dernières années qui sont en fin de cycle.
Fin de cycle en tout cas, il y en a une qui est en début de cycle, surtout depuis cette année, avec ce MVP Derrick Rose du côté de la conférence Est. On bascule de l'autre côté des États-Unis. La finale qui a débuté il y a deux jours entre Miami et Chicago. Je ne sais pas si vous avez vu ce match-là. Vous n'avez pas vu le match de l'année dernière, mais est-ce que vous avez vu le match
de l'année dernière? J'ai vu celui-là.
Et vous avez été impressionné peut-être. Alors je ne sais pas, là pour le coup, c'est défensivement que Chicago a avant tout bâti son succès. Je ne sais pas si vous avez un petit peu.
Oui, c'est défensivement, mais surtout sur les rebonds aussi, surtout rebonds offensifs qu'ils ont dominé le match, et c'est ce qui a fait le match, quoi, parce que on sait très bien que Miami sont très forts à l'extérieur, mais niveau intérieur ils sont un peu légers. Ils ont que Bosch en 4, qui a fait un très bon match d'ailleurs à ce match-là, mais en tant que 5 ils ont personne, quoi. Ils ont que des anciens, à part Anthony qui est jeune. Donc c'est sûr qu'ils ont appuyé sur ce point-là, et puis c'est ce qui a fait le match. Après, ils ont été assez défensifs durant tout le match. Ils ont rentré des paniers à 3 points qui étaient assez importants, notamment Derrick Rose. À un moment, il a mis 2-3 qui étaient assez importants. Mais c'est vrai que c'était un très bon match à voir. Et puis ouais, voilà, j'attends le deuxième match. Avec impatience.
Juste les stats, hein, pour rester sur ce thème de la défense. Vous le disiez, Alexis, 31 points pour Bosch, donc plutôt l'homme en forme de cette rencontre côté hit. 18 points pour James, 13 points seulement pour Wade. Ils ont été complètement muselés, Armel.
Vous voyez qu'on peut les arrêter.
Oui.
Non, mais si je vous avais sorti ça juste dessus, avant de partir, effectivement, il y a 15 jours, effectivement, on peut toujours bloquer des joueurs. Après, il faut savoir effectivement quel système adopter pour le faire. Jouer en équipe. Je vous rappelle quand même que Chicago, c'est la meilleure défense de la ligue. Donc ça, c'est une des premières raisons. Tom Thibodeau, c'est lui qui a les plans de défense. Donc forcément, il sait faire. 12 sur 32 au tir pour la doublette quand même. Wade James sur ce match. 12 sur 32. Vous imaginez le gâchis qu'il y a eu. Et en fait, en même temps, on peut dire que c'est peu de tirs tentés puisque voilà, on les a sortis des lignes de passe. On les a coupés de leurs partenaires. Donc, ils avaient peu de solutions parce qu'on a vu des matchs aussi parfois avec James ou Wade avec 30 shoots. On parlait tout à l'heure de 12 sur 15 de Nowitzki. Nowitzki, il va rarement dans les 30 shoots. Quand vous prenez 30 shoots dans un match, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
C'est voilà. Ouais. C'est que ça veut dire ça va pas très fort. Le franchise player prend des responsabilités absolument monstrueuses. Donc là, ils ont trouvé la parade pour aller sur ces deux joueurs. Et on a eu une autre force aussi du côté de Chicago. Mais celle-là, on la connaît. Elle vient du banc. Parce qu'effectivement, là, on a vu un gros match de Gibson. On a vu un très bon match de Asik, le Turc, qui est sorti du banc également. Et puis Ronnie Brewer, également excellent. C'est-à-dire que Chicago, ils ont pour chaque remplaçant, chaque starter, effectivement, ils ont toujours une position intéressante. Ronnie Brewer, ce n'est pas du scoring, c'est un vrai stop défensif. Gibson, c'est la maîtrise du rebond. Et Asik, eh bien, c'est le pivot mastog lourd qui va faire mal, qui va appuyer un petit peu là, dessous. Et ils ont toujours cette réponse en venant du banc, cette équipe de Chicago. C'est-à-dire que Korver, sur ce match, par exemple, dont on avait besoin de lui sur des shoots à 3 points à un moment donné et tout, il a été plutôt assez faible. Eh bien, on a trouvé quand même la parade avec autre chose, mais surtout, ça reposait sur une excellente défense. Oui, c'est vrai.
Une excellente défense qui met à mal pour l'instant cette équipe de Miami. On en reparlera dans la deuxième demi-heure. Un petit mot de Georges, j'aimerais lui donner la parole, puisque avant cette finale de conférence, et même avant, puisqu'on était encore en demi-finale de conférence, nous avait prédit que Miami allait tomber sur Chicago en finale de conférence, mais il nous avait dit que Miami passerait. Alors, je veux savoir si Georges est toujours du même avis à l'heure actuelle.
Un peu moins. Parce que si Chicago arrive à reproduire les mêmes qualités, c'est-à-dire contrôler le tempo, ralentir le match, Miami a besoin de courir. Les athlètes de James et Wade, ils ont besoin d'interceptions, de jeux de transition, de paniers faciles. Dès que Chicago arrive à mettre leur emprise sur le match, à ralentir le tempo, à faire un match qui tourne entre 80 et 90 points plutôt qu'au-dessus de 100 points, quand ils utilisent leur taille pour dominer le rebond, là, franchement, ils ont tous les atouts en main pour gêner Miami. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir le refaire plusieurs fois pour aller en finale NBA? C'est la grande question. Je pense que c'est fort possible parce que jusque-là, ce que fait Chicago m'impressionne.
Ouais, impressionnante équipe de Chicago qui a parfaitement débuté sa finale de conférence Est face à Miami. On continuera de parler de cette rencontre tout à l'heure dans la deuxième partie de Carrément Basket. Évidemment, on profitera de la présence d'Alexis Aginsa pour lui poser pas mal de questions. Et on espère toujours, je vous le disais tout à l'heure, avoir Tony Parker par téléphone en fin d'émission. On parlera également de la Pro A. Tiens, il y a aussi des choses à dire. Et puis de la loterie, je le rappelle, qui a eu lieu la nuit dernière, la loterie pour la draft NBA et la belle opération pour Cleveland.
Tout le basket est sur RTL Équipe. Carrément Basket, Luigi Colang.
La deuxième partie de ce Carrément Basket, toujours en compagnie de nos invités, Alexis Aginsa, qui nous fait le plaisir d'être là jusqu'à à midi et demi. On a également Armel Lebescon et Georges Eddy, toujours fidèle au poste. Messieurs, avant de parler de plein de choses, de la Pro A, je le disais, il y aura également la loterie pour la draft qui a eu lieu la nuit dernière, un petit mot du lockout, pourquoi pas, on parlera de plein d'autres choses. Mais avant, je voulais terminer sur cette finale de conférence Ouest qui oppose Chicago à Miami en ce moment. Donc on parlait tout à l'heure du banc, on a parlé de l'équipe, on a parlé de la défense de cette équipe de Chicago. Un petit mot justement sur un des Français, Joakim Noah, qui a été énorme. Vous le disiez tout à l'heure, Alexis, au niveau des rebonds offensifs, nous en avons gobé 8 encore le Joux là. Super prestation une nouvelle fois de
ouais,
c'est pas mal quoi.
C'est sa force, hein, c'est sa force et l'énergie, c'est tout le temps être à 100%. Et puis voilà, jouer dur et prendre des rebonds. Et c'est ce qu'il fait parfaitement et c'est ce qu'il fera à chaque match. Comme il l'a dit avant le match, c'est le meilleur match, c'est le plus important des matchs de sa vie. Et puis je pense que ça va continuer, ça va continuer à grimper à chaque fois, quoi. Donc je pense que ça c'est intéressant. Et puis on va voir aussi que s'il est capable d'assumer son statut, quoi.
Ouais, est-ce qu'il va tenir comme ça toute la série, l'ami Noah?
Pourquoi pas? De toute manière, quand Noah et les autres dominent au rebond offensif, ça empêche Miami d'avoir les munitions pour courir. Donc c'est la clé de tout. Mais je voudrais revenir sur deux points par rapport à ce premier match. D'abord, pourquoi Bosch fait 30 points? Parce qu'il faut choisir son poison, comme on dit aux États-Unis. Et la défense collective bien huilée de Thibodeau et de Chicago, ils ont décidé d'aider en permanence sur les pénétrations de Wade et de LeBron, ce qui forcément va laisser beaucoup de liberté à Bosch ou à Joel Anthony. On peut pas être partout. Donc ça a marché à merveille. Et deuxième chose, quand on voit cette défense que je trouve, pour les puristes, c'est un rêve de regarder cette défense collective de Chicago. C'est 5 défenseurs qui bougent comme les 5 doigts d'une main. Ça fonctionne ensemble, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et c'est ça, c'est-à-dire que la raquette est toujours bloquée. Et pour des joueurs comme Wade et LeBron, ça rend leur vie difficile. Et
même Dunk est devenu un très bon défenseur. Voilà, excellent. Non, mais vous imaginez, Dunk, il y a 3 ou 4 ans, c'est vrai que c'était quand même une de ses grosses lacunes. Et aujourd'hui, Thibodeau, elle l'a même dit, je comprends pas qu'il soit pas dans la deuxième équipe, la meilleure défense et tout. Il a trouvé ça assez suspect. C'est quand même, là, je veux dire, en l'espace d'une année, voir lui, Old Dunk, évoluer de cette manière, ce qui ne lui enlève absolument aucun scoring. On le voit très bien, justement.
17 points par match.
Voilà, travailler offensivement d'une manière très intelligente. Lui a vraiment changé son type de jeu. Il s'est vraiment amélioré en défense. Il prend un tout petit peu moins de shoot et tout. Et comme le dit Georges, il a 17 points de moyenne. C'est quand même assez... Là aussi, c'est une mue, une véritable mue très intéressante pour ce type de joueur. Mais cette défense, on les voit effectivement, les garçons, ils sont toujours avec les bras bien écartés. Ils sont toujours sur l'impulsion au niveau des jambes, prêts à bondir. Voilà, voilà. Et ça, ce sont des choses qu'il faut regarder quand on a l'occasion de le voir sur des plans larges et tout, de télévision. Eh bien, essayez de voir comment c'est une toile d'araignée qui se tissent face à l'équipe adverse que vous avez. Alors, ils sont jeunes, effectivement, ils sont habités par du ressort dans les jambes, mais je veux dire, c'est... Généralement, les coachs le disent toujours. Alors, ça passe sur le pratique, plie les jambes, soit en flexion, un peu de détente, les bras, n'oublie pas. Mais quand vous en avez 5 comme ça et que vous êtes en match et que vous devez marquer quelqu'un, et voilà, ce sont des choses qui deviennent un réflexe du côté des Bulls parce qu'effectivement, on leur a ressassé sans arrêt ce type de discours Et eux, ils sont attentionnés, focus, quand on dit quand ils sont concentrés pour le faire, effectivement, on voit le résultat.
Et ce qui est bon,
oui, je peux ajouter que donc, c'est Lou Alding qui a défendu sur LeBron, essentiellement. Et après ce qu'il a dit, j'ai envie de dire, lol, il a fait une saison de dingue.
Les jeux de mots, merci Georges.
J'avais pensé. Hein.
Toujours taqué, mais effectivement, une saison de dingue pour Lou Hall, vraiment énorme. Et ce qui est bon signe, messieurs, depuis tout à l'heure dans la conversation, c'est qu'on n'a pas parlé une seule fois de Derrick Rose. Alors qu'au tour précédent, on disait...
Il fait quand même 28 points.
Il fait quand même 28 points.
On commence à être habitué maintenant.
J'ai entendu un seul mot sur lui depuis tout à l'heure, alors qu'avant, c'était peut-être l'interrogation. C'était lui qui vraiment poussait avec ses performances stratosphériques, comme dirait Georges, lors du tour précédent face à Atlanta. Mais là, bon, il nous fait quand même effectivement un match à 28 points, mais on n'a pas dit son nom. Donc, ce qui est bon signe également pour Chicago, c'est qu'il n'y a pas que du Derrick Rose dans la vie, quoi.
Voilà. Par exemple, on a vanté les mérites du banc. Ça s'est confirmé. On a vanté effectivement les rebonds offensifs de Joachim Noah. À l'inverse de ce que je vous ai cité, par exemple, avec Oklahoma, où tout est focalisé sur Kevin Durant, par exemple, hier au rebond, au scoring et à la passe. Eh bien, ce n'est pas le cas dans l'équipe de Chicago sur le premier match, sur ce qu'on a vu, hein, en tous les cas. Il faudra revoir ce soir la copie parce que je pense qu'il y aura quand même une réaction de Miami cette nuit. Mais, ça veut dire qu'il y a un ensemble de talents à tous les postes dans cette équipe de Chicago qui est vraiment très intéressante sur chaque poste qui arrive, même du banc.
Alexis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en tout cas de jouer contre les deux équipes en saison régulière ou pas. Vous avez affronté, vous avez eu l'occasion ou pas?
Oui, Miami, j'ai eu l'occasion de jouer contre les deux. Miami un peu plus souvent que Chicago, sûrement, notamment avec Toronto. Je dirais que le rebond, c'est vraiment le point fort de Chicago. Surtout avec Carlos Boozer qui commence à revenir en forme et qui est très imposant aussi dans la raquette. Très dur à défendre aussi parce qu'il est assez avoir un physique assez imposant comme il a, c'est très dur à défendre. C'est vrai que les deux équipes sont, on va dire, un peu similaires à l'extérieur, mais à l'intérieur sont complètement différentes. C'est le jour et la nuit. Donc, c'est sûr que je pense que Miami va sûrement hausser le ton et puis va montrer un visage complètement différent ce soir. Et puis je pense que ce sera un match complètement intéressant à voir, quoi.
Ouais. Il faut qu'ils accélèrent la cadence en étant plus agressifs en défense. Ils vont aller chercher D-Rose notamment plus haut. Ils vont essayer de le couper de ses coéquipiers. Et il y a des ajustements possibles à faire.
Ils peuvent le faire en plus en défense.
Mais bon, après, est-ce que ça va marcher ou pas? On verra le résultat.
Excuse-moi Luigi, oui. Parce qu'il y a une chose qu'il faut remarquer quand même. On dit que la défense effectivement de Chicago a été excellente. C'est vrai qu'elle a été excellente. Ceci étant, vous voyez quand même le score aussi de l'équipe des Bulls offensivement, 103 points sur la deuxième défense de la ligue. Miami, sa force.
Parce que vous avez les deux meilleures défenses face à face là.
Miami, c'était la deuxième meilleure défense. Et c'est là-dessus qu'ils se sont reposés tout au long.
C'est pas le même type de défense. C'est pas du tout le même style de défense.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir.
Mais Miami joue beaucoup plus pour avoir l'interception et pour courir.
Voilà.
Alors que l'autre, c'est beaucoup plus pour contrôler l'équipe.
Voilà.
Exactement.
Et ce qui leur permet d'avoir du jeu de transition ensuite et puis de partir sur les fast breaks et effectivement de développer et d'assurer des points rapidement. Voilà.
Oui, je pense voilà. Que c'est le visage qu'on va voir ce soir.
Qu'on va voir ce soir.
Tout à fait.
Avec LeBron James et Dwayne Wade qui vont hausser le ton surtout pour couper les passes et pour justement intercepter
cette balle. Chose qu'ils avaient réussi à faire en début de rencontre face à Chicago. Après, ils ont un petit peu perdu ça, mais en tout début de rencontre, en tout cas, il y avait.
Oui, ils menaient à ce moment-là.
Il y avait notamment les deux premiers paniers du match où c'est James et Wade qui partent
du fast break.
Typiquement sur ce.
C'est leur fond de commerce.
Voilà.
C'est pour ça qu'ils ont explosé.
Mais
Boston.
On n'est pas. Voilà.
Oui,
parce que c'est comme ça qu'ils ont joué, que Boston s'y attendait pas. La défense qu'ils avaient mis sur Chris Paul. Et c'était quand même
Paul
Pierce, je veux dire.
Paul Pierce.
Donc c'est vrai que.